Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir j'ai le plaisir de recevoir Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po Paris, pour notre première rencontre autour des conditions du débat. Matière à penser pour parler cette semaine des conditions du débat. On parle beaucoup du débat en démocratie, des contenus du débat, des enjeux du débat, de ce qui va sortir du débat. Mais le débat en démocratie, et ça concerne la philosophie comme toutes les autres approches, le débat a aussi des conditions concrètes, des conditions matérielles, financières, scientifiques. De quoi, que savons-nous pour parler du débat? À quel titre parlons-nous dans un débat? Des conditions dont nous allons parler cette semaine avec nos 5 invités. Bonsoir Julia Cagé.
Bonsoir Frédéric Bont.
Merci beaucoup d'être venu ce soir. Vous êtes professeur d'économie à Sciences Po et vous venez de publier un livre au titre très clair d'ailleurs sur les enjeux justement que vous voulez traiter, Le prix de la démocratie. Et je voudrais commencer la discussion avec vous sur les conditions, notamment financières, mais d'ailleurs il y en a d'autres parce que vous touchez à beaucoup d'autres points institutionnels à travers les questions de financement concernant la démocratie. Je voudrais commencer par une citation qui ouvre votre cinquième chapitre et qui m'a semblé prémonitoire. Votre livre est paru en d'été 2018, en tout cas a été fini,
septembre.
Écrit pendant l'été de 2018, avant les manifestations des Gilets jaunes en France. Et je voudrais citer, donc concernant, c'est un chapitre intitulé « Le financement public des partis et des campagnes électorales », et vous avez la phrase suivante, vous vous engagez très personnellement souvent dans votre écriture, « J'avoue, dites-vous, qu'il est difficile d'imaginer un déferlement sur les Champs-Élysées, rythmé par le slogan « Plus d'argent pour nos représentants ». Alors, on a envie de dire, vous aviez imaginé qu'il y aurait bientôt en France un déferlement sur les Champs-Élysées, et peut-être qu'il répondait d'ailleurs à votre diagnostic en partie, mais j'ai pas entendu votre slogan, en effet, « Plus d'argent pour nos représentants ». Pourquoi est-ce que c'est un slogan si important, Julia Cagé, pour nos démocraties ?« Plus d'argent pour nos représentants », j'essaye de le scander.
Voilà, au moins il y aura une personne qui l'aura scandé, à défaut d'être sur les Champs-Élysées, ça aurait été à
France Culture. Voilà, c'est déjà ça.
C'est très bien, faut le répéter dans votre voiture chez vous. Non, en fait, le point de départ du livre, c'est de dire que la démocratie, elle a un coût. Il faut payer pour faire fonctionner des partis politiques. Ça coûte cher, un parti politique, ça coûte pas infiniment cher, mais il faut des locaux, il faut payer pour des permanents, il faut payer pour des tracts, il faut payer pour le coût des campagnes. Ça aussi, c'est un vrai coût qu'on peut limiter, qui varie dans l'histoire, qui varie au cours du temps, mais il y a un vrai coût. La question, c'est si cette démocratie n'est pas financée avec de l'argent public, alors, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, elle risque d'être capturée par les intérêts privés. Et le problème en fait, je marche sur un fil d'une certaine manière dans le livre, parce qu'il y a l'aspect constat. Le constat est relativement négatif pour les démocraties occidentales telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Notamment, une partie du constat est le suivant, c'est de démontrer que les dons aux partis politiques sont devenus un phénomène de classe, qu'aujourd'hui ils ont pris une importance croissante, et ça explique finalement le déficit de représentativité dont souffrent les catégories populaires. Quand on a fait ce constat-là, c'est vrai qu'assez spontanément, on se dit pas plus d'argent pour nos représentants. Et d'ailleurs, on se dit pas non plus je vais aller voter. On a soit le choix de l'abstention, soit le choix du populisme. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est que cette solution à la capture par les intérêts privés, c'est un financement public et qu'il faut aller contre finalement la réaction spontanée et choisir les modalités du financement public qui soient à la fois égalitaires, dynamiques, du jeu démocratique.
Donc le sens de ce slogan, ça n'est pas n'importe quel argent, c'est pas plus d'argent, quelle que soit sa source, pour nos représentants, et d'ailleurs c'est pas non plus pour n'importe quel représentant, puisque vous proposez aussi des changements, non seulement dans le financement, mais dans la représentation nationale. Mais est-ce que vous pensez, Julia Cagé, que la raison pour laquelle ce slogan n'a pas été chanté, effectivement, sur les Champs-Élysées, peut-être que votre diagnostic explique une partie des manifestations, mais si le slogan n'est pas apparu, comment l'expliquez-vous? C'est-à-dire, comment expliquez-vous que votre diagnostic, qu'on va creuser, que vous venez de résumer, les citoyens, finalement, n'en aient pas explicitement conscience? Ou est-ce que vous pensez d'ailleurs que les citoyens, les Gilets jaunes par exemple, ont conscience de ce problème majeur que vous pointez, de la source du financement d'abord des...
Non, moi je pense que les Gilets jaunes ont conscience du fait qu'ils souffrent d'un déficit de représentation. Ça, ils l'ont très clairement exprimé. Déjà, ils l'ont exprimé par le Gilet jaune, c'est-à-dire qu'il a fallu enfiler un gilet jaune pour devenir visible. D'ailleurs, certains d'entre eux diront qu'il a fallu aller plus loin, c'est-à-dire faire preuve de violence, de blocage pour devenir visible. On le voit aussi dans leurs revendications, par exemple autour de la question du référendum d'initiative citoyenne. Donc, ils demandent plus de participation. Donc, en fait,
oui,
ils ont conscience de souffrir d'un,
clairement
un changement dans les institutions, voire le référendum révocatoire. Un certain nombre d'entre eux vont jusque-là, mais je pense qu'ils n'ont pas conscience que c'est lié à la structure du financement. Et ça, c'était une des raisons pour lesquelles c'était extrêmement important pour moi d'écrire ce livre. Au départ, quand j'ai commencé à l'écrire et à le présenter en France, à l'étranger, une des réponses, ça a été systématiquement de me dire, y compris de la part de chercheurs, c'est très bien, mais cette problématique, c'est une problématique qui est purement américaine. Parce qu'aux États-Unis, on a assisté au cours...
C'est-à-dire cette problématique du déplacement du financement de la politique depuis le public vers le privé.
Vers le privé, voilà. Parce qu'aux États-Unis, on a dérégulé la démocratie. Et d'ailleurs, regardez, les dernières élections ont coûté 4,5 milliards de dépenses privées, pour le coup.
Je m'arrête sur votre formule, pardon, Julia Cage. On a dérégulé la démocratie. Je trouve que c'est une formule très claire, très puissante.
Oui, au cours des dernières années aux États-Unis, ça a été extrêmement frappant. C'est-à-dire que les États-Unis sont un pays qui ont innové au début des années 1970 dans la mise en place d'un système de financement public et de remboursement public de leurs dépenses de campagne pour les élections présidentielles et qui ont encadré assez fortement à partir des années 1970 les dons aux partis politiques et surtout les dons aux campagnes électorales.
Là, c'était un moment de régulation.
C'était un moment de régulation. Et en fait, dès que ces régulations ont été mises en place, elles ont été attaquées aux États-Unis, notamment par la Cour suprême, qui les a détricotées au fur et à mesure des décennies. Et finalement, l'élection de Donald Trump en 2016, c'est la fin de ce détricotage, puisque c'est la première élection depuis 2014 qui, pour les élections primaires comme pour l'élection générale, s'est fait sans aucun remboursement public des dépenses des candidats qui ont tous fait le choix de dépenses privées massives. Et ce qui est triste dans le cas américain, c'est que au départ on a laissé passer. Je pense que personne n'a vu les enjeux derrière un certain nombre de décisions prises par la Cour suprême. Et à partir du moment où on s'est rendu compte que ça allait beaucoup trop loin, en fait, toutes les volontés de réintroduire de la régulation ne sont pas passées. Notamment du fait du rôle joué par la Cour suprême aux États-Unis, où vous avez un certain nombre de juges relativement conservateurs à l'heure actuelle qui sont nommés à vie et qui prennent des décisions qui empêchent finalement toute régulation, y compris au niveau fédéral. Et il se trouve qu'on a la même constitution aux États-Unis depuis des siècles, mais des juges qui en ont changé l'interprétation, et qui notamment ont introduit cette conception de la liberté d'expression, enfin de l'argent, comme liberté d'expression. Et ça, ils ont commencé à l'introduire à la fin des années 70. C'est devenu de plus en plus important dans leurs décisions.
Alors ça, c'est effectivement un point très important, Julia Cagé. Mais avant de venir sur ce point qui est crucial, c'est-à-dire que même le système juridique a construit une théorie, finalement, pour légitimer ce que vous dites, revenons un peu sur le diagnostic que vous faites. Ce que vous dites, finalement, c'est que vous liez deux choses, et c'est pas intuitif, mais c'est très important de les lier. C'est le déficit de représentation sociale et le mode de financement. Et ce que vous dites finalement, c'est que, évidemment, quand on transporte le financement du public au privé, forcément, ce sont ceux qui ont plus d'argent qui vont donner. Mais pour vous, au fond, la source du financement de la politique influe sur la politique elle-même. C'est-à-dire, si ce sont les riches, entre guillemets, qui donnent, vous pensez que les partis vont non seulement... vont être influencés par cette politique et vont servir les intérêts de ceux qui les financent.
C'est extrêmement intéressant ce que vous venez de dire, Frédéric Vorm, parce que vous avez dit, si jamais c'est les financements publics qui dominent, forcément...
Non,
si jamais ce sont les financements privés qui dominent, forcément ce sont les plus riches qui vont donner.
J'ai peut-être eu tort, votre livre ne dit pas...
Non, mon livre le dit. Mais alors pour plein de gens, c'était pas du tout... Forcément.
Donc c'est ça que votre livre cherche à démontrer.
La première chose que mon livre cherche à démontrer et démontre en utilisant notamment les données fiscales en France, c'est que les dons aux partis politiques sont un phénomène de classe. Spontanément, vous avez un certain nombre d'individus qui pensent qu'en fait tout le monde donne un peu, voilà, vous avez des gens qui font des petites donations, vous avez des adhérents qui paient leurs cotisations, et que finalement que ce soit privé ou public, ça pose pas vraiment un problème. Donc la première chose que j'ai voulu établir dans mon livre, c'est qui donne combien aux partis politiques chaque année en fonction de sa position dans la distribution de revenus. revenus.
C'est ça, et là c'est un peu masqué parfois par certains chiffres, Julia Cagé, puisqu'on a un grand nombre de donateurs, mais si on regarde de plus près, c'est là qu'être une économiste aide aussi à faire de la philosophie politique ou de intervenir dans le débat citoyen, on s'aperçoit que c'est en fait évidemment disproportionné et qu'il y a beaucoup de donateurs qui donnent très peu et très peu de donateurs qui donnent beaucoup. Et pour vous, ça c'est un phénomène critique. En un sens, c'est quelque chose qu'il faut examiner de très très près.
Oui, parce qu'en gros, ce qu'on voit aujourd'hui en France, c'est que vous avez moins de 1% des Français qui chaque année font un don au parti politique. Parmi les 0,01%...
Vous-même, Julia Cagé, moi ça m'est jamais venu à l'esprit.
J'ai jamais fait un don au parti politique. Je me suis engagée parfois, ça voilà,
c'est vrai
faut quand même dire les choses, mais j'ai jamais fait
C'est une idée assez militante déjà, malgré tout.
J'ai jamais fait un don. Bah, pourtant, on m'a parfois accusé de m'engager au-delà de ce qu'un chercheur devrait faire, ce que j'assume complètement.
Vous donnez de votre personne, vous donnez de vos idées.
De mon temps, de ma personne, mais j'ai pas donné d'argent. Et je pense en particulier parce que je suis plutôt contre en fait cette possibilité de laisser ceux qui en ont les moyens financer la vie politique. Mais donc c'est moins de 1% des individus, ni vous ni moi.
Ouais, mais dans les 99.
Mais parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, donc toujours ni vous ni moi d'ailleurs, je pense.
Je suis quand même professeur, Julia Cagé.
Mais justement, l'état des rémunérations de l'enseignement supérieur
merci
français.
Merci de le confirmer.
On pourra en discuter aussi, mais c'est une autre problématique. Bon, parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, vous avez 10% de donateurs.
D'accord.
Donc déjà, il y a une surreprésentation d'un point de vue quantitatif. Et ce qui est vraiment frappant derrière, c'est la valeur moyenne du don. Parmi les 80% des Français les plus modestes, c'est-à-dire la très large majorité des Français, le don moyen est de 120 euros. Parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, il est de 5 245 euros, c'est-à-dire quasiment le plafond de 7 500 euros de don. C'est 40 fois plus. Donc en fait, on constate, et ça c'est important de l'établir dans les faits une fois qu'on veut réformer ensuite, que les dons aux partis politiques sont un phénomène de classe. Et c'est important de l'établir aussi parce que bon, vous avez introduit l'émission sur les Gilets jaunes, donc si je me permets de me mettre un peu dans l'actualité et la campagne.
Je crois quand même que vous aviez quand même quelque chose en tête, hein, un diagnostic social très, très puissant en tête. Hein. C'est vrai que j'ai appliqué aux Gilets jaunes, mais c'était quand même l'idée que cette situation dont vous parlez allait créer des revendications sociales un jour ou l'autre.
Oui, bah parce qu'en fait, ce qu'on a constaté, c'est que cette situation-là fait que les femmes et les hommes politiques ont tendance à ne répondre qu'aux préférences des plus aisés. Donc en fait, il y a un lien entre les modalités de financement et les politiques qui ensuite sont mises en œuvre. Et là, dans mon livre, je m'appuie notamment sur les travaux qui ont été menés par un politiste américain qui s'appelle Martin Gillens, qui a écrit un livre extrêmement intéressant qui s'appelle Affluence and Influence, donc la richesse et le pouvoir, et qui finalement montre qu'en moyenne, si vous regardez l'ensemble des politiques qui sont mises en œuvre, en moyenne, les hommes politiques mettent en œuvre des politiques qui correspondent aux préférences de l'ensemble des citoyens. Maintenant, si on regarde sur tous les sujets sur lesquels les préférences de la majorité des citoyens ne sont pas les mêmes que les préférences des plus favorisés, dans ce cas-là, en fait, les hommes politiques ont tendance à ne satisfaire que les préférences des plus favorisés. Et il appelle ça la démocratie par coïncidence. Oui. En gros, il dit, en général, la démocratie, ça marche parce que, par chance, les plus modestes et les plus favorisés ont des préférences qui convergent. Le problème de la démocratie par coïncidence, et finalement c'est ça que je pointais du doigt dans mon livre, c'est que parfois ça coïncide plus du tout. Et quand ça coïncide plus du tout, ben c'est là où on a une espèce de révolte des classes populaires qui ne comprennent plus et qui protestent contre les politiques qui sont mises en œuvre.
Mais alors j'avais envie justement, Julia Cagé, de vous poser une question sur cette expression, le titre de ce livre que vous venez de reprendre, la démocratie par coïncidence. On voit bien ce que veut dire l'auteur que vous venez de reprendre, c'est-à-dire au fond les partis politiques n'auraient plus le souci finalement de la politique du plus grand nombre et ne la retrouveraient que selon un peu le hasard en coïncidence avec les intérêts de ceux qui les financent, majoritairement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas vous poser la question inverse ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment un lien causal si facile à établir entre ceux qui financent, donc qui sont les plus aisés, et les politiques qui sont menées ? Ou bien est-ce que ce n'est pas, là aussi, je me fais l'avocat, disons, de cette autre facette, est-ce que ce ne serait pas là plutôt qu'il y aurait coïncidence ? C'est-à-dire, il y a des gens aisés qui donnent, les partis favorisent la politique pour eux, peut-être ça peut être par leur idéologie de départ, par leur choix idéologique, et pas forcément par un intérêt immédiat ou une causalité avec le financement. Comment est-ce qu'on peut démontrer, ou en tout cas pointer vers cette causalité ?
Il y a des choses que je démontre factuellement dans le livre. D'une part, que les dons aux partis politiques sont devenus un phénomène de classe. Deux, que ça profite très majoritairement aux partis qui sont plus conservateurs économiquement. Et trois, que ces dons-là, ça nourrit des dépenses de campagne qui ont un effet sur le vote. Ensuite, il y a des choses que je souligne et que je ne peux pas démontrer de manière causale. Une des choses que je souligne, c'est qu'il se trouve que on a eu, au cours des dernières années où les démocraties ont été dérégulées sur le plan des financements, on a eu un virage à droite.
Pour vous, l'idéologie partis... a suivi le dérégulation et non pas l'inverse.
Des partis à la fois conservateurs et des partis historiquement de gauche, entre guillemets, sur le plan économique, vers des politiques beaucoup plus conservatrices. Ce qui est vraiment frappant, c'est quand on regarde comment ça s'est joué dans le temps. Moi, un des exemples qui m'a le plus interpellé, c'est le cas britannique et le cas du Parti travailliste au Royaume-Uni. Historiquement, le Parti travailliste au Royaume-Uni, c'est un parti de syndicats. Ce sont les syndicats qui ont fondé le Parti travailliste. Et d'ailleurs, si on regarde la sociologie des candidats du Parti travailliste, pendant longtemps, il y avait une majorité d'ouvriers, d'employés. C'était un parti de classe populaire avec des représentants qui provenaient des classes populaires.
Représentants, y compris au Parlement. Il y avait des députés issus de ces mandants-là.
Ce qu'on a très peu eu en France et ce qu'on n'a plus du tout aujourd'hui en France. Et ce qu'on a très peu eu d'ailleurs au même moment aux États-Unis. Ce qui est vraiment frappant dans le cas du Parti travailliste, c'est qu'au milieu des années 1980, parmi les nombreuses réformes mises en œuvre par Margaret Thatcher, il y a une réforme qui vient affaiblir le lien financier direct entre les syndicats et le Parti travailliste. Où avant, il y avait un espèce d'automatisme qui faisait que les syndicats finançaient le Parti travailliste. Elle met fin à cet automatisme qui fait que, si vous regardez les comptes du Parti travailliste, on voit un effondrement du financement en provenance.
Avec quel argument d'ailleurs, Julia Cagé?
Margaret Thatcher, c'est passé sous la table. Hein, c'est une réforme.
Ah bon. Mais
technique.
C'était pas un argument politique, idéologique, justement. Qui est dans le déni en ce moment pour le financement plutôt par les aisés, comme vous disiez. Mais là, c'était explicite, c'est-à-dire les syndicats cherchent à influencer la politique. Donc là, au moins, il y avait une sorte de lien avoué.
Oui, de toute façon, c'est encore même dans le débat aujourd'hui au Royaume-Uni, où on voit, au Royaume-Uni, contrairement à la France, les dons des entreprises sont encore autorisés. Et vous avez tout un débat où, d'une certaine manière, le Parti travailliste devrait vouloir interdire les dons des entreprises, mais continue de toucher des dons des syndicats, donc voudrait sortir les syndicats de la définition des entreprises. Et le Parti conservateur, qui n'a pas vraiment intérêt à interdire les dons des entreprises, dit d'accord, on le fait, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de dons des syndicats. Et du coup, on est dans un équilibre où aucune décision n'est prise. Mais ce qui est frappant dans le cas du Parti travailliste, c'est quand on voit cet effondrement du financement en provenance des syndicats, on voit au fur et à mesure de plus en plus de dons privés en provenance d'individus aisés et d'entreprises privées qui viennent alimenter les finances du Parti travailliste. On trouve exactement au même moment un effondrement de la part des représentants travaillistes qui proviennent
du monde ouvrier,
ouais. Ouais. Des classes populaires. Et cette coïncidence-là, elle est vraiment frappante parce qu'elle se passe simultanément dans le temps. Et c'est aussi ça qui débouche d'une certaine manière ensuite sur le nouveau parti travailliste de Tony Blair. Alors bien sûr, on pourra jamais établir exactement, puisqu'en fait, on a un certain nombre de chocs historiques dans un certain nombre de pays. Donc là, c'est l'économiste qui parle. L'économiste n'arrivera jamais à établir une causalité précise.
Soyons prudents sur la causalité.
Il faut s'interroger sur ce lien.
Et alors donc, le fait qu'il n'y ait pas de lien causal expliquerait aussi que finalement, ça n'est pas si conscient dans la tête des citoyens, Julia Cagé. Et au fond, j'avais envie de dire dans la tête de beaucoup, parce que du côté de la philosophie politique, parfois même de la sociologie politique, cette question du coût de la démocratie plus généralement, c'est-à-dire du rôle que jouent concrètement les moyens matériels, pourquoi est-ce qu'elle a été si négligée dans l'histoire de la pensée? Pourquoi est-ce que c'est finalement un impensé de la démocratie, cette question du financement en général? Avant de revenir au problème aujourd'hui et aux solutions que vous proposez aussi, mais d'une manière encore plus générale.
Moi, je pense, parce que quand on pense financement, on pense économie. D'ailleurs, les gens, quand ils voient le titre de mon livre, ça doit être ennuyeux, c'est des chiffres, c'est un livre d'économie.
Ah, quand même, le prix de la démocratie.
Mais le prix, justement, ça renvoie à la question des chiffres. Mais c'est pas un livre ennuyeux. Enfin, vous me direz, Frédéric Vorm.
Là, je me suis pas ennuyé du tout. Mais par contre, je trouve que moi, le titre est plutôt attractif. Enfin, je veux dire, c'est vraiment au contraire. C'est même une ambiguïté, parce qu'on se dit, le prix de la démocratie, ça peut être aussi sa valeur au sens moral. Enfin,
l'ambiguïté était volontaire. Bon. Oui. C'est pour ça que j'ai pas appelé ce livre.
Enfin, vous êtes économiste.
De la démocratie. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, quand on pense financement, on se dit ça, c'est une question pour les économistes. Ouais. Et je pense que les économistes ont laissé pendant des années les questions de démocratie de côté, en disant c'est soit des questions pour les sciences politiques, soit des questions pour la philosophie politique. Et c'est là où je pense qu'il faut penser tous ces sujets de manière interdisciplinaire.
Parce que je vais vous citer ma naïveté ou ma niaiserie, j'allais dire, de théoricien un peu de la démocratie, mais devenu de la philosophie. Je me souviens même, il y a très longtemps, ma stupéfaction à la lecture de Schumpeter, qui est pourtant maintenant un auteur classique en sciences politiques, mais il décrit finalement une élection comme un marché, et les candidats comme des produits. Et je me souviens que déjà là, d'avoir été à la fois frappé, choqué, et en même temps, je me disais, il y a quand même quelque chose de vrai, c'est-à-dire, on est un peu naïf quand on pense qu'il s'agit seulement d'un combat d'idées, d'un débat intellectuel ou idéologique. Il y a aussi une promotion matérielle, vous insistez beaucoup sur le rôle de cet argent, on va y revenir, hein, le financement des meetings, des médias, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire le diagnostic de Schumpeter aussi, c'est-à-dire, au fond, il faut prendre au sérieux, ça dévalorise pas forcément la démocratie, mais regardons vraiment comment ça marche.
Oui, bah Max Weber en parle énormément aussi.
Oui, à la même période.
En fait, il a une réflexion sur est-ce qu'il faut justement des professionnels de la politique ou pas, avec toute une réflexion autour de la rémunération, de la corruption que ça peut engendrer. Donc en fait, c'est que des problématiques économiques qu'on a derrière le savant et le politique chez Weber. Et même un Robert Mitchell, d'une certaine manière, dans sa théorie sur les partis qui ont une vraie tendance oligarchique, en fait, il a aussi les questions économiques derrière la tête. Le problème, c'est que une fois qu'on a posé ça, si vous prenez Schumpeter comme Weber, mais c'est aussi une autre tradition, une autre époque, il y a pas de chiffres.
Et je
pense que c'est ça qui fait qu'ensuite on passe à côté du problème. Et il y a presque un aspect même trop théorique, c'est-à-dire qu'on va dire ah. Revoici les économistes caricaturaux avec leur modèle théorique où ils doivent partout voir une espèce d'optimisation et un marché.
Oui, mais est-ce que vous pensez pas aussi qu'il y a la faute? Alors là, je plaide contre ma propre profession, enfin ou spécialisation. Est-ce qu'il y a pas quand même une sorte de naïveté instituée chez beaucoup de... Est-ce que ça vous frappe pas chez les philosophes que vous lisez peut-être? Je sais que vous en avez lu pour le livre, chez les théoriciens qui vous êtes stupéfaite parfois. Vous dites qu'ils parlent de démocratie, mais j'allais dire, où est l'argent, où est le concret, où est la chose même?
Non, je suis d'accord. Et en même temps, je les lis et je suis allée beaucoup leur parler. Et quand j'ai présenté mon livre dans des séminaires de philosophie politique, ouais, eux étaient plutôt stupéfaits du fait que j'avais tendance à définir la démocratie comme une personne égale une voix, comme si je la réduisais au seul jeu électoral. Ils me disaient, mais non, la démocratie, ce n'est pas que les élections, c'est une agora, c'est un débat qui a lieu dans différentes sphères. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y a de la naïveté des deux côtés.
Des deux côtés.
On a beaucoup à apprendre les uns des autres. Et je pense qu'il faut qu'on travaille davantage ensemble. Il faut qu'on écrive davantage ensemble entre les discipline, parce que le savoir universel, c'est une belle idée, mais on peut pas devenir spécialiste en tout, et c'est justement en dialoguant, je pense, qu'on va améliorer notre vision du monde.
Merci beaucoup, Julia Cagé. Je pense qu'on va continuer cette conversation aussi autour des conséquences concrètes de ces enjeux de financement et des solutions que vous proposez au phénomène que vous lui rattachez, c'est-à-dire le déficit de représentation sociale. Très précisément. Mais auparavant, vous nous avez apporté un morceau de musique qui a l'air très apaisant en apparence. Tout est si calme, qu'est la musique des bien-aimés.
Tout est si calme, tout fait silence. Je rêve dans la nuit qui avance. Qu'enfin on m'aime juste ça, mais on ne me regarde pas. Mais on n'existe pas plus que moi, comme je désire, comme on s'en fout, pour un soupir, combien de coups. Tout est si calme en apparence, je rêve dans la nuit qui avance. Qu'enfin il m'aime juste ça, mais juste ça n'arrivera pas. Juste ça c'est bien trop pour moi, comme ça me laisse la chair à vif. Pour une caresse, combien de griffes. Tout est si calme après les danses.
Je rêve dans la nuit qui avance qu'enfin vous m'aimiez juste ça. Je ne dis pas tu, je vous vois l'amour que je ne connais pas. Comme il est dur et froid le lit pour un murmure, combien de cris.
France Culture, matière à penser, Frédéric Borns.
Matière à penser, toujours avec Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po, et autour des conditions, notamment économiques, dans la conversation de ce soir, du débat politique et démocratique. Mais alors, Julia Cagé, quel message est-ce que vous transmettez aux citoyens et qui veulent débattre politiquement quand vous nous faites écouter Tout est si calme par trois générations de chanteuses? Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est juste parce que vous aimez cette chanson tout particulièrement?
Non, c'est parce que j'aime vraiment énormément cette chanson. Je trouve qu'on l'écoute pas assez. C'est une chanson qui est relativement méconnue. C'est un très beau film. Je m'étais dit que c'était bien d'avoir un moment de pause apolitique.
Parce que le débat politique n'est pas si calme finalement, Julia Cagé. Même dans votre livre, vous en dégagez les soubassements trop souvent restés implicites ou inconscients, notamment financiers. Mais quand même, on voit apparaître quand même le combat politique avec tout ce qu'il a, la nécessité qu'il y ait des moyens matériels pour organiser des meetings, des débats. Voilà, quels sont finalement les usages de cet argent dont vous dénoncez la dérive dans l'organisation, c'est-à-dire le passage du financement public au financement privé? Qu'est-ce que ça change concrètement dans le débat politique, Julia Cagé, d'après vous?
Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est utilisé cet argent, par exemple, pendant les campagnes électorales. Et ça varie d'ailleurs selon qu'on considère les élections locales, les élections nationales, selon qu'on considère la France et les États-Unis, selon les règles qui encadrent finalement ces campagnes. En France, parmi les principales dépenses, vous avez les dépenses de meeting, vous avez beaucoup de dépenses de transport, aussi de logement d'ailleurs, pour les candidats qui sont complètement indispensables. Et je voudrais souligner ici, parce que je pense qu'on vit dans une illusion aujourd'hui, du 21e siècle comme siècle où il n'y aurait plus de problématiques autour du financement parce qu'il serait devenu extrêmement peu coûteux de faire de la politique, de créer un mouvement politique. Il suffirait de créer une plateforme comme a pu le faire le mouvement 5 étoiles avec la plateforme Rousseau. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, une des principales sources de dépenses pendant les campagnes, ce sont les dépenses sur les réseaux sociaux. Les dépenses pour acheter des données, ce qu'on appelle le big data, et ensuite les dépenses de micro-ciblage des électeurs. Et ça, en fait, on voit comment des choses qui sont relativement discrètes, alors parfois ça explose dans l'actualité, ça s'est fait avec le scandale Cambridge Analytica, et on pourrait d'ailleurs souhaiter que ça débouche sur davantage...
C'est-à-dire la société qui avait les logiciels dont on a prouvé maintenant quand même qu'ils ont influencé l'élection américaine et le Brexit.
Oui, en fait, ce qu'ils ont fait, c'était, à la base, c'était un travail de recherche. D'ailleurs, ça a complètement fermé, ça c'est dommage, l'accès des chercheurs aux données de Facebook, mais c'était une entreprise qui était censée utiliser des données de Facebook pour faire de la recherche, donc de manière complètement non lucrative, et qui finalement a détourné une partie de ces données pour micro-cibler les électeurs, notamment pendant le Brexit, mais aussi en partie pendant la campagne de Donald Trump, qui étaient potentiellement des électeurs qui pouvaient basculer. Et ensuite, ces électeurs-là, on les a ciblés d'énormément de différents messages publicitaires. Ça coûte très cher. Et le candidat qui a les moyens d'acheter ces données, de mettre en œuvre ses politiques par rapport au candidat qui ne les a pas, il n'est pas sûr de gagner à tous les coups, mais ça lui donne un avantage électoral gigantesque.
Mais alors, il y a quelque chose là aussi où vous déniaisez le lecteur dans votre livre, que je lui conseille néanmoins parce que je ne veux pas lui faire peur, mais vous dites très clairement que la conscience qu'on pourrait avoir, ou l'idée qu'on pourrait avoir, que notre vote vient que de nos opinions, que ces messages liminaux, subliminaux, mais en tout cas qui viennent de l'extérieur, n'influenceraient pas. Vous dites que quand même tout montre que finalement on est influencé concrètement par le nombre, les sources, les effets, les contenus de ces messages constants.
Oui, moi je pense qu'un des défauts des chercheurs comme des journalistes d'ailleurs, c'est que souvent on applique un peu trop notre propre grille de lecture à notre vision du monde. Donc comme chercheur, parce que souvent on lit beaucoup la presse, on se documente, on a des engagements politiques forts, on a l'impression qu'en fait notre vote est prédéterminé. Et que finalement, peu importe si tel ou tel candidat fait un meeting, dépense telle ou telle somme, on sait pour qui on va voter et puis on le sait longtemps à l'avance. Mais la plupart des citoyens sont indéterminés. Et déjà, ils sont indéterminés quant au fait d'aller voter. Une grande partie des dépenses électorales, ce sont des dépenses pour faire du porte-à-porte. D'ailleurs, il y a des dépenses qui parfois sont même faites en amont pour convaincre les électeurs d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Tout simplement de s'inscrire. Ensuite, il faut les convaincre d'aller voter. Et ensuite, une fois que vous avez des électeurs convaincus, parfois ils vont voter jusqu'au dernier moment, ils sont indécis. C'est vrai que dans ce cas-là, le fait d'avoir reçu un message supplémentaire, c'est-à-dire juste de connaître le nom du candidat dont ils vont choisir le bulletin de vote, ça a un véritable effet. Et c'est là où on voit finalement cet effet des dépenses électorales que je pense que malheureusement, souvent les chercheurs ne perçoivent pas parce qu'ils sont un peu trop prédéterminés en amont dans leur vote.
Mais alors vous, Julia Cagé, vous prenez une position que je trouve très forte dans votre livre. Disons, entre ceux qui ont dérégulé et qui assument, pour des raisons idéologiques d'ailleurs, très proches d'un certain libertarianisme américain, d'une dérégulation, disons, voilà, assumant cette sorte de marché politique, d'un côté, d'un autre côté, ceux qui en tireraient une conséquence antidémocratique radicale en disant « laissons tomber les élections, c'est devenu le plus cher, le plus riche qui l'emporte ». Vous avez confiance finalement dans la démocratie, vous pensez qu'il y a des mesures institutionnelles, démocratiques, dans le financement, mais pas seulement, aussi dans la représentation sociale, qui peuvent répondre. Alors d'abord, avant de venir à ces mesures, je voudrais vous interroger sur cette confiance que vous avez dans les institutions démocratiques. Là, on parle du débat, de l'Assemblée nationale, on parle aussi finalement quand même du débat électoral. Vous pensez quand même que tout ça est nécessaire, absolument vital?
J'ai pas trouvé mieux. Non, mais c'est ça la vérité.
C'est une très bonne réponse.
Ce que j'ai fait dans mon livre, il y a à peu près 10 pays qui sont couverts, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie. Je remonte souvent jusqu'aux années 50 pour ces différents pays-là, parce que justement, moi, je pars jamais du principe que je suis la première à réfléchir à une question. Cette question, elle est vieille, de la démocratie, même si la démocratie, somme toute, est une institution récente.
Oui, la question de la démocratie est vieille, mais cet angle d'approche est récent quand même.
Il y a eu des tentatives de régulation, il y a eu des réussites, il y a eu des échecs, et l'idée, c'est d'apprendre de toutes ces leçons-là pour proposer un meilleur système et des réformes. Il se trouve que dans ce tour du monde et ce tour d'histoire, d'une certaine manière, je n'ai jamais trouvé d'exemple de démocratie fonctionnelle sans parti politique. Si j'en avais trouvé, j'aurais été très heureuse de me pencher là-dessus et de voir dans quelle mesure ça pourrait être une meilleure solution.
Oui, vous avez raison de souligner ce point, parce que je ne l'ai pas cité, mais en fait, votre livre est aussi, pas un éloge, mais enfin quand même un retour clair sur ce que c'est même qu'un parti politique. Ça peut dériver, vous montrez des dérives, mais au fond, c'est un instrument de régulation parmi d'autres de ce marché qui sinon serait complètement sauvage.
Mais d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire que pour prendre forme et continuer à exister dans le débat public, ils cherchent à former un parti politique. Et ce qui est extrêmement intéressant d'ailleurs derrière, parce qu'une fois qu'on a dit c'est un parti politique ou on fait un mouvement politique, ce qui est intéressant, c'est les règles de fonctionnement de ce mouvement politique. Et si je compare aujourd'hui le Parti communiste français et la République en marche, si vous voulez, on met derrière...
Oui, la France a quand même connu les
deux, les deux formations, la même étiquette de parti politique, mais enfin, ça fonctionne pas de la même manière, même dans les règles de financement pour commencer, puis dans les règles de désignation du chef, dans les règles de démocratie interne. Le point principal, c'est qu'il y a des élections pour lesquelles il faut des candidats, et c'est vrai qu'on n'a pas trouvé mieux, en tout cas moi j'ai pas encore trouvé mieux, et dans le tour du monde que j'ai pu faire, on n'a pas encore trouvé mieux que les partis politiques qu'il faut réformer, parce qu'encore une fois c'est vraiment très très large de dire un parti politique pour organiser ce système électoral.
Oui, mais enfin, il n'y a pas que les partis politiques non plus, Julia Cagé. En tout cas, même si chacun peut définir son usage d'un certain financement, pour vous, ce qui compte, c'est d'abord des institutions qui règlent la vie publique en général, des institutions vraiment politiques. On va revenir sur ce que vous proposez, mais finalement, l'institution donc des partis en est une. Pour vous, il y en a d'autres. Il y a quand même les cadres du débat, les élections, tout simplement. Pour vous, c'est fondamental. Et vous avez donc trouvé aussi des cas où ça marchait moins mal. C'est-à-dire que finalement, quand on régule bien, la démocratie peut ne pas trop mal marcher.
Oui, je sais que enfin, là, c'est une position qui est le fruit de la réflexion que j'ai menée, mais je sais que tout le monde ne sera pas d'accord sur ce point-là. Notamment, j'ai beaucoup débattu avec Hélène Landemort en philosophie politique, qui, elle, considère qu'aujourd'hui, en termes de démocratie, on peut faire beaucoup mieux que les élections et qu'il faut préférer à ça le tirage au sort, et que c'est l'intelligence collective d'un petit nombre de citoyens tirés au sort qui permettra d'aboutir à de meilleurs résultats que les systèmes électoraux actuels. Et c'est vrai que là, il y a un travail d'argumentation pour essayer de convaincre en faveur d'un système plutôt qu'en faveur d'un autre système. Mais c'est vrai que empiriquement, c'est assez difficile de trancher. On a des succès, on va dire, dans le domaine électoral, et il y a des expériences qu'Hélène Landemort et d'autres ont étudiées, par exemple en Islande, où on voit que le tirage au sort peut être également une solution satisfaisante.
Oui, ça dépend quel est le problème. Moi, ce que je sens comme étant votre problème, Julia Cagé, enfin, le problème que vous traitez, vraiment, en tant qu'économiste, mais en tant aussi que citoyenne, et disons, sur le plan de la science politique ou de la philosophie politique, c'est vraiment le problème de la représentativité sociale. J'ai l'impression que si vous critiquez tel ou tel système, par exemple ici le tirage au sort, c'est parce que vous ne lui faites pas forcément confiance pour cette représentativité sociale. Peut-être qu'elle sera, disons, meilleure qu'une oligarchie qui serait créée par le financement privé, par des gros intérêts, mais au fond, pour vous, il y a mieux pour aboutir à cette question. Est-ce que c'est pas ça la question centrale que vous posez?
Oui. Alors, c'est la question centrale, c'est la question de la représentativité. Ça, c'est la question qui est au cœur de
la sociale,
de,
ça vous gêne, de
mon livre. Non, de la représentativité sociale. Non, pour le coup, oui, c'est la représentativité sociale. D'ailleurs, je dis que je voudrais introduire une dose de parité sociale. Donc,
justement,
j'assume,
l'expression m'a beaucoup frappé. J'allais vous interroger dessus, Julia Cagé.
J'assume complètement l'adjectif. Ce que je dis sur le tirage au sort, c'est pas ça. Je dis que le tirage au sort permet, comme la solution que je défends, qui est l'assemblée mixte et la parité sociale, d'aboutir au même objectif, qui est la représentativité sociale.
Ça marcherait aussi, alors.
Oui, mais le problème du tirage au sort, pour moi, c'est que c'est extrêmement nihiliste du point de vue démocratique. D'accord. Pourquoi on veut réformer et améliorer nos institutions démocratiques? Parce qu'on croit au jeu électoral.
Aussi, oui.
Et je trouve que c'est quand même un de nos droits les plus fondamentaux comme citoyens, de pouvoir choisir les élus qui ensuite vont nous défendre et vont débattre
les
en notre nom.
Les élus et les idées aussi.
Les élus et les idées.
Parce que au tirage au sort, on peut améliorer un fonctionnement, mais on a quand même envie de savoir ce que pensent les gens qu'on élit.
Voilà. Et ça, on perd ça, en fait, avec le tirage au sort. Donc je vous dis, en fait, trouvons un moyen qui permet d'atteindre le même objectif, la représentativité sociale, sans renier l'usage du jeu électoral, et ça passe par la parité.
Alors vous prenez, effectivement, vous employez cette expression de parité sociale, comme on parle de parité entre les hommes et les femmes, et vous proposez, parmi les trois mesures que vous proposez, peut-être justement c'est la plus forte, c'est le dernier chapitre de votre livre, l'instauration d'une assemblée mixte, c'est-à-dire élue avec deux fonctionnements, finalement. Est-ce que vous pouvez préciser, le rappeler d'abord, Julia Cagé, puis après qu'on en discute un instant?
Oui, il faut déjà partir du constat. Le constat, c'est qu'on a un vrai déficit de représentativité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous avez aujourd'hui zéro ouvrier parmi les députés, vous avez moins de 3% de députés employés, et que c'est pas quelque chose qui est propre à cette Assemblée-là, c'est une réalité depuis le début de la Ve République. Mm-hmm. Même d'ailleurs, quand la gauche était au pouvoir, on n'a jamais eu plus de 10% de députés qui venaient des classes populaires. Et la tendance est en train de s'aggraver. Donc à un moment, on va être à zéro dans tous les cas, donc ça ne pourra plus s'aggraver. Donc on voit que si rien n'est fait, finalement, en utilisant les outils de l'État de droit, donc c'est ce que je propose avec l'Assemblée mixte, en fait, on n'aura plus du tout de représentativité sociale à l'Assemblée nationale.
Mais alors, avant de venir à la solution, pourquoi est-ce que c'est si important? Moi, je partage le sentiment intuitif, et même un peu plus, que c'est très important. Mais pourquoi est-ce que c'est si important? Est-ce que vous pensez que les gens qui manifestent manifestent pour être directement représentés, ou est-ce qu'ils manifestent pas pour certaines politiques? Et en quoi est-ce que c'est important, non seulement la politique menée, mais ceux qui la font?
Il y a une double conception de la représentativité. Il y a une idée de la représentativité qui dit, voilà, vous devez être à mon image, et puis il y a une conception de la représentativité où vous représentez mes idées. Voilà. Finalement, peu importe si vous êtes un homme et que je suis une femme, par exemple.
Par exemple.
Il y a des études qui ont été menées, notamment par Nicolas Carnes aux États-Unis, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle White Collar Government, donc le gouvernement des cols blancs. Qui a étudié au cours des 50 dernières années aux États-Unis la manière dont les représentants qui provenaient des classes populaires votent, et dont les représentants qui proviennent des cols blancs, donc des classes supérieures, votent. Et en fait, on voit que sur un certain nombre de sujets, ils ne votent jamais de la même manière.
C'est
donc, en fait, on voit que l'origine sociale influence le vote. Et ça veut pas dire, c'est pas quelque chose d'absurde, ouais. Ça veut pas dire bêtement que parce que vous êtes un ouvrier, vous allez voter que pour les ouvriers. C'est juste que ça, vous venez finalement au monde politique et à la réforme politique avec un point de vue différent. D'ailleurs, moi, je pense pas qu'il faille que des ouvriers, ça serait aussi un problème, c'est avec que 100% d'ouvriers. Et ce qui est intéressant, c'est d'apporter les différents points de vue, finalement, sur le débat qu'il faut résoudre. Et c'est ça que permet l'introduction d'une dose de parité sociale. D'ailleurs, ça a été aussi documenté en sociologie, en sciences politiques et même en économie, le fait que les femmes ne votent pas pareil sur un certain nombre de sujets que les hommes. Mais même si elles votaient pareil, et c'est là que ça devient intéressant, même si elles votaient exactement pareil, est-ce qu'on ne trouverait pas ça problématique d'avoir aujourd'hui une assemblée qui ne soit composée que d'hommes.
Bien sûr, mais et pour ce la serait même peut-être raison... un autre problème que celui qui est le vôtre, c'est-à-dire très clairement la question quand même des contenus des politiques, des politiques qui sont menées, et vous faites un double constat qui fait que votre livre ne porte pas seulement sur la déformation de la démocratie par l'argent, des possibilités de corruption, de finance, par les financements privés, mais vraiment sur les choix politiques impliqués, et donc voilà, c'est pas seulement une sorte d'injustice en général, c'est très précis sur le contenu de la politique démocratique. Alors comme il nous reste malheureusement assez peu de temps, quand même, Julia Cagé, votre solution principale, enfin, qui fait d'ailleurs que c'est un livre de propositions politiques en général et pas seulement d'analyse économique du financement de la démocratie, cette assemblée mixte. Donc il y a deux votes.
Voilà. Par rapport à la situation actuelle, pour deux tiers des députés, on garde les modalités actuelles d'élection. Donc vous votez dans votre circonscription pour votre député. Et pour le tiers restant, on introduit un scrutin à la proportionnelle sur liste au niveau de la France avec la moitié des candidats qui proviennent des classes populaires, donc des listes Chabada.
Ensuite, Chabada, c'est-à-dire
vous savez, c'est comme dans le film de Truffaut. Non, mais c'est l'expression qui a été utilisée pour quand cette loi a été introduite pour les élections régionales pour la parité entre les hommes et les femmes.
D'accord.
C'est-à-dire c'est l'idée, c'est comme c'est une élection à la proportionnelle, l'idée c'est quand même pas de mettre que des cadres supérieur tout au haut de la liste et des ouvriers en bas de la liste, parce que dans ce cas-là, on est sûr qu'en fait, ils ne seront pas élus.
D'accord.
Donc voilà, c'est d'être sûr d'alterner entre un homme, une femme. En fait, la référence, c'est au film Un homme, une femme. Du coup, je suis même plus sûr que ça soit Truffaut.
C'est Lelouch plutôt.
C'est Lelouch. Voilà,
aucune importance, Julia Cagé.
J'aurais dû mettre ça comme musique. Donc, ça vient de Un homme, une femme, le film de Lelouch, et que la chanson était Chabadabada. C'est comme ça qu'on a appelé ça des listes.
Ah voilà, un homme, une femme, alors un col blanc, un col bleu, c'est la même chose.
Exactement.
Donc liste Chabada. Et ça permettrait de corriger ce déficit de représentativité sociale qui est quand même au cœur de votre diagnostic.
Ça permettrait de le corriger au moins en partie, puis je pense que ça permettrait aussi de corriger le déficit de défiance extrêmement forte dont souffre aujourd'hui...
Déficit de confiance plutôt, et montée de la défiance.
La montée de la défiance dont souffre aujourd'hui le personnel politique. Encore une fois, si vous avez commencé sur la citation « plus argent » pour nos représentants. Je veux dire, quand vous faites un sondage aujourd'hui, vous avez deux tiers des Français qui disent qu'il faut diviser par deux le salaire des députés. On peut d'ailleurs réfléchir sur est-ce qu'ils sont trop ou pas bien payés. Mais ils ne s'interrogent pas sur les conditions de la démocratie.
Vous dites...
Ils ne s'interrogent pas. En fait, ils sont juste en colère. Et ils sont en colère parce qu'en fait, ils ont le sentiment de ne plus être représentés par cette Assemblée. Et encore une fois, pourquoi ils vont payer, eux, comme contribuables, pour des représentants qui ne les représentent pas? Si on rétablit un peu de représentativité, alors on rétablira un minimum de confiance.
Et justement, ce sera ma dernière question, Julia Cagé. Vous avez quand même un peu confiance dans la dimension, la direction que prennent le débat et la démocratie en France et en Europe. Est-ce que vous pensez que ça peut aller dans le sens d'une re-régulation minimale, même si ça passe parfois par des sursauts ou des surgissements qui emploient d'autres armes que celles que vous proposez?
Moi, je suis extrêmement inquiète. C'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre. Hein, quand on voit la situation en Italie, le mouvement 5 étoiles avait pris comme un de ses principaux combat le fait de supprimer tous les financements publics aux partis politiques, justement en se présentant comme anti-parti. Quand on voit aujourd'hui ce qui a pu se passer aux États-Unis, ça va dans la même direction. Et en fait, c'est pour ça, encore une fois, que je pense qu'il faut réussir à convaincre, et là il y a un travail de pédagogie, il faut réussir à convaincre les citoyens que la solution, c'est le financement public régulé et égalitaire, avec le même montant pour chacun des citoyens, quel que soit son revenu. Il faut se battre pour ça. Là où j'ai...
Oui, ça c'est votre autre idée du chèque démocratique.
Oui, il est bon pour l'égalité démocratique. Mais là où j'ai confiance d'une certaine manière, c'est que ce sujet, il intéresse. Le livre, j'ai eu l'occasion de le présenter plusieurs fois, notamment en province, et les gens sont intéressés. Et notamment, en fait, les gens me disent... Mais merci en fait d'avoir mis cette réalité sur la table.
Sur la table.
On le savait pas. Maintenant qu'on le sait, et il se trouve qu'il y a un grand débat, donc puisqu'on parle des conditions du débat,
absolument,
on a les conditions pour avoir un débat sur ce sujet. Maintenant qu'on a établi les faits, donc il faut s'en saisir et il faut aller vers une réforme et notamment une amélioration du financement de la démocratie en France.
Merci beaucoup, Julia Cagé.
Merci.
Merci à vous. Matière à penser, c'était notre première rencontre autour des conditions du débat, aujourd'hui les conditions économiques, finalement, du débat démocratique, avec et grâce à Julia Cagé, avec aussi Jean-Michel Bernaud, Sandrine Chaperon, Catherine Bonnet, Anne-Pascale Devine, Frédéric Worms. Je vous retrouve demain pour notre deuxième rencontre sur ce même thème.